Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
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 Pirate!
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Pirate. Ce soir, nous allons parler de la situation des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères en France avec nos invités, que nous remercions chaleureusement d'avoir répondu présent à notre appel à témoins. Précarité administrative, précarité économique, précarité sociale et académique. Tous ces enjeux-là vont être évoqués ce soir sur Radio Pirate. Alors, est-ce que vous êtes prêts à pirater le confinement? C'est parti, un petit moment musical. Est-ce que plusieurs centaines de personnes étrangères habitant en France avaient saisi la justice juste pour avoir la possibilité de déposer leur dossier de renouvellement de titre de séjour? Avec la crise sanitaire liée au Covid, les préfectures de police sont pointées du doigt par de plus en plus de personnes pour le retard accumulé dans le traitement des demandes des étrangers. Cette situation, c'est celle que moi, comme d'autres étudiants en France, vivons en ce moment. Souhaitant changer de carte de séjour après 6 ans de présence sur le territoire français, avec un statut étudiant, j'enchaîne depuis le premier confinement les rendez-vous téléphoniques et les sollicitations administratives pour envoyer mon dossier. Cette situation est loin d'être rare. Elle s'applique à tous les étrangers présents sur le territoire, dépendant du titre de séjour pour la poursuite de leurs activités professionnelles, personnelles, leurs études, voire parfois pour continuer à bénéficier d'un traitement médical déterminant. Parmi tous ces cas de figure, les étudiants étrangers ont une place particulière. Outre la précarité administrative qu'ils partagent avec les autres étrangers présents en France, ils partagent aussi des problématiques de précarité et de souffrance psychologique propres à la situation des étudiants du supérieur en France. Donc précarité administrative liée au titre de séjour, précarité académique liée à leurs conditions de vie et les difficultés d'adaptation au système français, mais aussi difficultés économiques, alors qu'ils sont bien souvent isolés, loin de leur famille et souvent dépendants des jobs étudiants à leur disposition. Nos invités, ils sont trois, ils et elles sont trois ce soir, vous en parlerons plus en détail. Vaniela, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu, Vaniela?
Ça va super, et vous?
Super. Est-ce que tu vas te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et nos auditrices?
Oui, alors moi c'est Daniel et je fais partie du collectif des étudiants étrangers de Madagascar qui sont venus étudier en France. Et donc on a créé ce collectif à cause justement de la situation du retard qu'a pris la délivrance des visas.
Très bien. Tu es étudiante toi-même dans quelle filière, à quel niveau?
Alors je suis en L1 de droit.
Super, très bien. Merci beaucoup de ta présentation. On passe ensuite à Madi. Bonsoir, Madi.
Moi, je m'appelle Madi et je suis étudiant étranger, noir, africain et sans papier. J'ai un master 2 sciences sociales et je travaille sur la question des sans-papiers, la lutte des sans-papiers.
Très bien. Bienvenue, Madi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, on finit avec Coyote. Bonsoir, Coyote.
Oui, pardon, j'ai un problème de micro. Bonsoir.
Bonsoir, comment vas-tu?
Très bien, très bien.
Super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Coyote. Je viens du Mexique et j'ai fait toutes mes études supérieures ici en France. Et maintenant, je suis en doctorat. Je suis en troisième année de doctorat à Lyon en sciences de l'ingénierie.
Super. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez ce soir, on est très nombreux et très nombreuses à pouvoir témoigner de la situation des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères en France. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons progressivement tout au long de l'émission et du mieux que nous pouvons. On va commencer tout de suite avec le témoignage de Vaniela, qui va nous exposer un petit peu son vécu et le travail de son collectif. À toi, Vaniela.
D'accord, merci. Alors, notre travail, oula, je bug, désolée. Alors, tout a commencé déjà parce qu'on était très inquiets par rapport au retrait des visas. Donc, il y a eu un grand retard dans les délais. Et donc, on a commencé à se réunir un peu sur les réseaux sociaux. On s'est demandé pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Alors, on a créé un groupe Messenger qui réunit un peu, tout le monde, toutes les personnes dans cette situation. Et au final, on voulait avoir de nouvelles informations car il n'y en avait aucune d'officielle. Et on s'est rendu compte que personne, au bout de 80 personnes dans le groupe, personne n'avait de nouvelles informations. Donc, on s'était inquiété et on a décidé de prendre du coup de l'avance et finalement de se visibiliser sur les réseaux sociaux et envoyer aussi des lettres, des mails aux autorités compétentes sans nouvelles. Et donc, de ce fait, s'il n'y a pas eu de nouvelles, on a dû encore pousser un peu plus dans les initiatives en demandant, par exemple, de l'aide avec des pages malgaches assez influentes et très sympas qui nous ont beaucoup aidé. Et aussi, on a été repéré par notre cas a été traité dans un article de journal et également aussi une personne assez avec une compétence assez importante, on va dire assez haute, qui pouvait finalement aller jusqu'au gouvernement, jusqu'aux autorités compétentes, à l'ambassade, pour pouvoir vraiment expliciter le problème. Mais encore aucune nouvelle. Et donc, on a créé notre pétition à la suite d'une publication officielle, en fait, de l'ambassade de France qui se dégageait du problème et qui, au final, ne pouvait rien faire pour nous ou du moins ne voulait pas. On ne savait pas vraiment. Donc, on a décidé de créer cette pétition qui nous a beaucoup aidés, finalement. Il nous a beaucoup visibilisés. On a eu beaucoup de soutien. Et au final, au bout fin août, je pense que c'était à ce moment-là. Et bien, les premiers visas, en tout cas, ont commencé à être délivrés. Et voilà, ça...
Bravo à vous, en tout cas.
Merci.
Et par rapport à ta situation personnelle, depuis que tu es arrivée en France, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ton vécu, ton expérience?
Oui. Alors, c'était un peu compliqué. Déjà parce que ça nous a beaucoup sonné, cette expérience, parce qu'il a fallu s'organiser, savoir que faire, et aussi, vous savez, cette exposition médiatique aussi qui pouvait être très, très dangereuse à Madagascar. Hein. Et au final, voilà, c'était très, très difficile à vivre. Et aussi, on était confrontés pour la première fois, en fait, aux problèmes possibles en France en tant qu'étranger. Donc, c'était vraiment amer et c'était compliqué. Et même une fois arrivé en France, plusieurs ont rapporté que la situation était difficile par rapport à la paperasse administrative pour les étudiants étrangers. Donc, c'était surtout ça pour les autres. Moi, personnellement, mon vrai problème, c'était aussi côté social, l'intégration, parce que justement, je me sentais pas en confiance avec et bien ceux que je considérais comme des ressortissants français, de nationalité française. Et je me sentais beaucoup mieux avec des personnes étrangères parce que justement, j'avais une défiance. Je ne me sentais pas très, très bien.
C'est tout à fait compréhensible. Voilà. Tout ce que vous avez dû traverser durant tout ce processus. Donc, tous ces éléments-là, ce choc institutionnel, en tout cas en France, ça a eu pour effet une distanciation entre toi et tes camarades de promo français ou européens, en tout cas ?
Oui, c'est exactement ça.
D'accord, très bien. Et ça va mieux en ce moment ? Maintenant, ça s'est un petit peu amélioré, la situation pour toi ?
Oui, ça s'est beaucoup amélioré avec le temps. Hein. Donc, voilà.
Tant mieux, très bien. Et concernant les enjeux d'un point de vue économique, est-ce que tu te sens particulièrement précarisé ou en tout cas particulièrement exposé d'un point de vue économique, ce qui peut rajouter au point de ta précarité déjà administrative? Est-ce que c'est un enjeu qui te concerne particulièrement?
Alors, moi, personnellement, j'ai de la chance, non. Après, je connais beaucoup de personnes qui, oui.
Très bien, parfait. Une autre petite question par rapport à cela. Coyote et Mazi, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir en même temps, si vous le souhaitez, évidemment. Comment tu as fait pour t'accommoder aussi un peu de ce nouvel environnement académique et universitaire? Les cours étaient un peu plus difficiles. Est-ce que le temps d'adaptation que tu as pris a été plutôt long? Tu as l'impression, comment ça se passe pour toi à l'université?
Alors, ça c'est vraiment, oui, ça a été très long. L'intégration a été très difficile. Pour tout dire, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis. J'ai encore beaucoup de mal finalement. Mais je pense qu'avec le temps, avec le recul et même la situation sanitaire, en tout cas pour moi, ça me permet aussi de pouvoir finalement un peu plus m'intégrer déjà dans le fait d'être dans une nouvelle dans un nouvel environnement. Donc je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne et finalement je commence à aller vers les autres beaucoup plus facilement qu'avant, parce que je pense que pour moi le plus difficile c'était le fait d'être complètement déstabilisée par un changement d'environnement qui fait que il y a des personnes tout à fait différentes avec une culture différente finalement. Et c'est vraiment le fait de pouvoir accepter et de pouvoir s'intégrer de manière vraiment à dans le territoire finalement, hein, dans le pays. Et c'est après ça vraiment que j'ai commencé à aller voir les personnes.
En tout cas, oui, on sent clairement que ça a eu un impact en termes de souffrance et des difficultés psychologiques liées à toutes ces situations. Et bravo à toi en tout cas pour réussir à t'en accommoder. Une dernière question autour du collectif. C'est quoi son devenir actuel? Qu'est-ce que vous faites comme action? Comment vous vous organisez actuellement?
Alors actuellement, il se passe pas grand-chose en fait, parce que tout le monde est un peu... En fait, c'est un collectif de 400 personnes. Donc il y a des personnes qui organisent un peu des... On va dire un peu... voilà, ceux qui se sentent le plus concernés. Alors ces personnes-là ont donné beaucoup... de leur énergie. Après, maintenant, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûre qu'ils aient d'autres volontés à part le fait d'arriver en France. Et en même temps, avec toute la situation, je pense que tout le monde est un peu dans sa vie privée. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Après, j'espère que dans l'avenir, on pourra toujours faire des choses ensemble.
Évidemment. Après, merci beaucoup pour ces éléments de réponse-là. Je pense qu'on a énormément appris de par ton expérience. Sans transition, on va passer à une petite capsule audio. Un témoignage d'un étudiant malien en France qui nous a fait part un petit peu de ses difficultés. Et on revient juste après pour réagir.
Bonjour. Bon, en fait, la vie étudiante en France, c'est assez compliqué parce que en France, les étudiants ont souvent du mal à s'intégrer parce que des fois l'intégration se passe bien, des fois l'intégration se passe pas au top parce que j'ai l'impression que souvent certains Français ont une hostilité vis-à-vis des immigrés en fait, et en particulier les immigrés africains. Et vis-à-vis des formalités, en fait, c'est assez compliqué. Il y a plein de démarches à faire pour avoir le titre de suivi et tout. Mais bon, quand on est dans certaines facs, ça peut être plus facile. Par exemple, à l'université Paris-Saclay, c'est plus facile. Genre, c'est l'université qui prend rendez-vous avec la préfecture. Mais c'est très compliqué, c'est plein de paperasse. Et la crise du Covid a empiré la situation. C'est vraiment plus difficile avec le Covid. Et sinon, la vie de tous les jours, bon, il y a la carte imaginaire pour le transport, donc du coup les transports ça coûte moins cher quand on est étudiant et on a moins de 26 ans en Île-de-France, c'est presque 50% moins cher. On paye 38 euros par mois ou 350 euros l'année et le repas du Crous il est assez abordable, il est à 3,25 €. Bon, et le comment ça se passe, le comment dire, comment ça se passe pour les jobs étudiants, c'est très difficile d'avoir un job étudiant pour un étranger, surtout quand tu viens d'Afrique et que tu es malien, par exemple. Moi, je suis malien et c'est hyper difficile. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de CV et tout ce que j'ai comme job, c'est un job de coursier. Et c'était même pas en tant que salarié, c'était en tant qu'auto-entrepreneur. Je faisais la livraison de repas, soit à vélo, soit à voiture, soit avec un autre moyen de transport. Les études en France aussi, c'est très difficile. Il faut s'accrocher. Et bon, par rapport au système africain, on peut s'adapter, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça dépend aussi des filières. Certaines filières sont plus souples que d'autres. Mais de façon générale, les études en France, ça demande quand même beaucoup de rigueur. Ça demande beaucoup de rigueur et ça demande beaucoup de sérieux. Mais bon, les écoles privées sont plus accessibles et plus organisées que les facs, d'après ce que j'ai cru entendre. J'ai jamais fait d'école privée, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Et les grandes écoles, c'est largement mieux, c'est la voie royale. Mais la fac, souvent, c'est le bordel. Tout ce qui est administratif et consort, c'est souvent chiant, en fait.
Merci, A.A., pour son témoignage, qui est un témoignage assez frappant des difficultés que, en tant qu'étudiant étranger, particulièrement en tant qu'étudiant africain, on peut vivre en venant en France pour étudier. Pour rebondir un peu sur ce que le témoignage de A a pu évoquer, une question pour nos invités. Est-ce que les difficultés que A évoque dans son témoignage autour des discriminations dans la recherche à l'emploi, donc tout ce qui est recherche de job étudiant, de recherche de moyens de subsister en fait en tant qu'étudiant, est-ce que ce sont des difficultés, des discriminations auxquelles vous avez été confrontés toutes et tous les trois? Coyote, si tu veux commencer.
Alors oui, moi particulièrement, quand j'étais à la fac, j'ai pas trop été subi à des difficultés économiques parce que j'avais une bourse entre les deux gouvernements, c'est-à-dire la France et le Mexique, mais j'avais quelques copains qui effectivement ils trouvaient des petits boulots, et ce qui était bien à l'époque, c'est que ce qui les a beaucoup aidés en tout cas, c'est l'effet de travailler au reste universitaire parce que finalement, ça lui permettait de rester pas très loin de la faculté, enfin de la fac, et de quand même pouvoir se payer à manger. Mais effectivement, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, on ne se rend pas trop compte au tout début. Enfin, pour moi, ce n'était pas évident au début, la différence des niveaux de vie qu'on a entre les différents pays. Et du coup, même si ça a l'air pas si compliqué que ça, quand on arrive dans un pays étranger comme la France, où la vie, juste de quoi manger, c'est beaucoup plus cher. En fait, ça devient pour nous beaucoup, beaucoup plus cher, la différence entre les niveaux de vie dans les différents pays.
Bien sûr, tout à fait. C'est très juste ce point, justement. Et je pense que Vanilla et Nassi abonderont dans ce sens-là. Arriver en France, c'est aussi subir une perte de revenus, même si on a potentiellement des parents qui peuvent nous aider de temps en temps. La perte en matière de taux de change est assez dramatique, notamment lorsqu'on vient étudier en France, justement, avec l'euro. Mazi, est-ce que tu voulais intervenir à ce propos? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi?
Ben, personnellement, moi, j'ai pas rencontré de la discrimination à l'embauche parce que j'ai travaillé dans les nettoyages. C'est le seul endroit où on n'est pas discriminé en tant que noir, en fait. Donc, en plus, j'étais boursier pendant 3 ans de mon gouvernement et j'avais une bourse de 600 euros. Ensuite, je viens d'une famille qui peut combler, subvenir un peu à m'envoyer de l'argent quand ils peuvent. Et donc, souvent, à part les quelques moments que je travaillais, j'ai travaillé dans le nettoyage à Disneyland, à nettoyer les bungalows, mais sinon, je n'ai pas vraiment travaillé dans d'autres domaines. Sauf pour la récolte peut-être des haricots d'ampoule en Bretagne durant l'été, mais ça aussi, il n'y a pas vraiment de discrimination en sens que j'ai confronté, en fait.
Justement, oui, tout à fait, ce genre de métier-là où il n'y a pas de discrimination et il y a de l'embauche potentielle pour les étudiants étrangers, c'est souvent des secteurs où il y a énormément de pénibilité, où les horaires peuvent être particulièrement contraignants, surtout si tu disais, Mazi, que tu travaillais justement, que tu avais travaillé un peu à Disneyland. Je ne sais pas à quel point c'est éloigné de ta faculté, mais pour des étudiants qui peuvent être dans des facultés parisiennes, par exemple, la durée du trajet doit être exceptionnellement longue. D'autant plus qu'un point intéressant, c'est que quand on arrive en France avec un titre de séjour étudiant, on a un temps de travail qui est limité. Donc pour les étudiants et les étudiantes qui n'ont pas de bourse, et les bourses en France sont limitées quand même pour les étudiants et les étudiantes étrangers et étrangères, c'est particulièrement difficile de trouver des pistes d'emploi dans des secteurs où c'est pas trop pénible et où justement ça embauche des étudiants étrangers. Et toi, Vanilla, que t'évoques un peu cette situation-là? Vanilla n'arrive pas à activer son micro. Mazi ou Coyote, vous voulez ajouter des choses par rapport à cela, peut-être sur les limites liées au titre de séjour, justement?
Pour ma part, peut-être, c'était 4 heures de trajet par jour, parce que j'habitais pas en Île-de-France, mais quand je travaillais à Disneyland. Mais sinon, pour la limite des titres de séjour, ça fait vraiment 2 ans que je suis sans papier, du coup... Avant, j'avais un titre de séjour d'un an, du coup, je n'ai pas plus de choses à ajouter là-dessus.
Et concernant ton titre de séjour, je sais que dans ton témoignage, je sais que tu vas en parler notamment dans ton témoignage, mais est-ce que tu peux développer par rapport justement à cette difficulté d'obtention de titre de séjour, qu'est-ce qui t'a particulièrement affecté dans cette perspective-là?
Oui. Je disais que, en fait, au niveau du titre de séjour, moi, pour l'instant, c'est une année depuis, en fait, en quelque sorte, je suis sans papier et je n'ai plus de titre de séjour. C'est pour ça, en fait, je disais que je ne suis pas confronté à la question de la préfecture cette année. Je n'ai pas été confronté cette année. Mais peut-être que c'est dans notre témoignage que vous avez relevé.
Oui, tout à fait. En fait, oui, tu en parles dans ton témoignage par la suite. merci beaucoup par rapport à cette question-là. Et à l'inverse, dans son témoignage, a évoqué des facteurs un peu facilitateurs. Il parle notamment de la carte imaginaire accessible aux étudiants qui permet de se déplacer beaucoup plus facilement. Est-ce que, de la même façon, vous voyez un peu des facteurs facilitateurs qui vous aident à tenir au quotidien en tant qu'étudiant ou en tant qu'étudiant étranger, qui vous permettent justement de dépasser un peu ces difficultés ou les discriminations administratives auxquelles vous pouvez être confronté? Coyote, par exemple.
Alors, oui, effectivement, il y a des... Enfin, j'essaie, en tout cas, là où j'ai fait mes études, dans l'école où j'ai fait mes études, en fait, l'administration, elle était très centrée sur des étudiants. Enfin, elle s'intéressait beaucoup aux étudiants étrangers. Et du coup, ça facilitait énormément les dialogues avec la préfecture. J'ai le souvenir, notamment, à la fin de nos études, normalement, on peut demander à la préfecture un certain délai, un temps, pour trouver un travail, une fois qu'on a fini nos études. Mais on a un certain... je pense que c'est un mois ou deux, je ne me souviens plus exactement. Mais si on ne demande pas avant de la fin de ces délais à la préfecture pour pouvoir rester, en fait, ils nous disent, en gros, tu as juste le temps que tu restes en tant que touriste, on va dire, pour trouver un travail. Et sinon, il faut rentrer chez soi, sachant que nous, on avait fait quand même 5 ans d'études en France. Et voilà. Et du coup, j'essaie que pour cette copine-là, c'était... En fait, vu qu'elle était partie en stage et elle est rentrée, et après, c'était un peu bourré pour la date. Et du coup, si l'université n'était pas intercédée, elle n'aura pas eu cette année pour trouver de travail. Sachant qu'en général, en tout cas dans mes collègues des promos, souvent les étrangers, on met plus du temps à trouver de travail. Du coup, plus on a du temps pour trouver un travail, c'est plus simple, surtout pour des gens qui veulent rester en France. Effectivement, de ces structures, quand il y en a, c'est vraiment, ça aide beaucoup, surtout pour s'intégrer, parce qu'on ne connaît pas tout en tant qu'étudiant, on n'a pas la tête à ça tout le temps. Du coup,
Bien sûr, merci beaucoup. Valéla, si tu nous entends et si tu peux débloquer ton micro, est-ce que tu peux penser justement à des facteurs Bon, je les ai appelés facteurs facilitateurs, mais des facteurs qui, à l'inverse, en France, que ce soit par le biais de l'université ou par des biais un peu plus informels, des choses qui aident un petit peu justement à vivre mieux au quotidien quand on est étudiant étranger en France.
Alors,
tu m'entends ? Bon retour par
Super. Alors, donc ta question, c'était bien s'il y avait des moyens qui serait un peu positif pour venir remédier à ça, c'est bien ça?
Oui, il y a des facteurs qui aident en fait les étudiants et les étudiants étrangers au quotidien, contrairement aux problèmes et aux obstacles sur la route des étudiants étrangers.
Oula, je ne t'entends pas très bien.
Tu m'entends bien là?
Pas vraiment.
Là?
Oui, là oui.
Super, désolée, j'ai des problèmes de micro ce soir, c'est absolument génial. Je disais, est-ce qu'il y a des facteurs facilitateurs, des collectifs ou des dispositifs mis en place par l'université ou par d'autres structures qui sont vraiment très très utiles ou qui t'ont aidé, toi par exemple, à un moment de ton parcours en France ou des camarades à toi par exemple?
Alors, personnellement, moi non. Personnellement, vraiment pas. Par contre, ce qui a pu faciliter, c'est vraiment la conversation entre nous. Donc, on pouvait se retrouver entre nous grâce au collectif, en fait. Peu importe la ville, on avait toujours ce groupe Messenger et ce qui facilitait vraiment toute la paperasse dès qu'on avait des questions et ça a beaucoup servi. Donc, on s'est un peu entraîné entre nous. Après, or, je ne sais pas trop. Pour les autres non plus, ceux qui font partie du collectif avec moi, ils m'ont pas vraiment parlé de solutions qui faciliteraient vraiment justement l'arrivée en France avec tout ça, tous les problèmes. Mais voilà, on s'est beaucoup entraidé par rapport aux paperasses parce que bien évidemment, on est un peu tout seul, quoi. Un peu lâché comme ça.
Et toi, Mazie, est-ce que tu partages un peu ce point de vue ou est-ce que tu vois quand même quelques points d'espoir?
Je n'ai pas entendu la question si elle s'adressait à moi.
En fait. Est-ce que tu as vu un petit peu, depuis ton arrivée en France, des facteurs qui facilitaient justement ton parcours, peut-être des collectifs, l'aide de ton université ou autre, ou comme Vaniela, tu n'as pas vu grand-chose hormis l'aide des autres étudiants étrangers dans le même cas que toi?
Pour ma part, en fait, les facteurs facilitateurs au départ, c'était bon, le fait que mon gouvernement, que je sois boursier de mon gouvernement, et ensuite le fait que j'ai pu justifier que ma famille supporte en gros les frais financiers de ma scolarité, mais du point de vue collectif, je n'ai pas eu le besoin de chercher pour dépasser, en fait, pour me faciliter en gros les dépôts des titres de ce jour.
D'accord, je vois, mais effectivement, donc le constat général est un peu plus pessimiste par rapport à cela. Et je comprends un peu mieux, du coup. Après cette petite capsule et le débat qui s'en est suivi, je vous propose du coup un petit intermède en musique pendant quelques minutes. Et on se retrouve juste après pour le témoignage de Coyote et enfin celui de Mazie. Merci encore.
I have therefore chosen this time and place to discuss a topic on which ignorance too often abounds and the truth too rarely perceived, and that is the most important topic on earth, peace, peace. Not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task.
Bon retour sur Radio Pirate. Merci de passer cette soirée avec nous. Après ce petit intermède musical, c'est au tour de Coyote donc de se présenter et de témoigner de son vécu en tant qu'étudiant étranger. Coyote, nous t'écoutons.
Merci. Je me représente un petit peu. Moi, je suis doctorant en sciences de l'ingénierie à Lyon. J'ai fait tout mon parcours d'études supérieures en France. Et en ce moment, je suis en troisième année de doctorant.
Et donc, pour moi, tout ce qui était les premières 5 ans de mes études, c'était plutôt bien passé, à part les quelques problématiques assez ponctuelles avec la préfecture ou des temps qu'il fallait aller chercher ces études, enfin, cette idée de séjour, etc. Mais grosso modo, on a beaucoup été aidés par l'école et donc j'ai pas eu des grosses difficultés. C'est surtout en commençant des doctorants en fait que les galères elles sont commencées tristement. Et en fait c'est particulièrement avec la pandémie que ça s'est beaucoup empiré. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé depuis avril fin mars dernier. Ça fait déjà presque un an. En fait suite au confinement, bon, comme je pense la plupart des doctorants en France, on n'a pas pu continuer nos recherches, ce qui fait qu'on a un certain temps des retards sur la recherche qu'on fait. Et donc, les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, suite à des demandes des chercheurs, il avait promis de faire des prolongations des thèses. Et en fonction des besoins pour les différents doctorants ou même pour des CDD qui travaillent dans la recherche. Ça, c'était au mois d'avril. Et donc, une fois qu'on a pu reprendre les travaux au mois de mai, bah, du coup, moi, j'ai repris les travaux. Et en fait, moi, mon contrat, enfin, mon titre de séjour, il est lié à mon contrat des thèses. Donc, quand mon contrat est fini, ce qui c'était en fin septembre, il y avait mon titre de séjour qui périmait aussi. Et donc, il fallait trouver des prolongations pour pouvoir prolonger mon titre de séjour et pouvoir rester en quelque sorte dans la légalité en France. Et en fait, c'était beaucoup plus compliqué parce que, bon, entre-temps, il y a eu les vacances et en fait, j'ai l'impression que personne ne s'est. En fait, tout le monde s'est un peu dit, bon, on va résoudre ça au dernier moment. Au dernier moment, il y a le gouvernement qui va lâcher des sous pour pouvoir payer aux doctorants. Mais finalement, en fait, le gouvernement, il n'a rien fait. Et donc, c'était surtout, on s'est battu avec l'université pour que l'université continue à nous financer parce que la thèse n'était pas finie. On avait pris des retards, sachant qu'en général, les thèses, on a des financements pour 300 et c'est plutôt 300 et demi qu'on met pour faire une thèse, en tout cas en sciences de l'ingénierie. Donc, on part déjà sur une base qu'on est en retard, plus un confinement, du coup, plus des retards. Du coup, c'était assez compliqué. Donc, finalement, on a réussi à avoir l'université, elle nous a dit qu'elle allait nous donner 3 mois en cherchant derrière que le ministère, il va rembourser ces 3 mois. Bon, ça, c'est plus de mon problème. Et donc, j'ai eu 3 mois, donc jusqu'à la fin des décembre, donc bientôt. Et en fait, j'ai encore besoin d'un prolongement parce que, bien sûr, la recherche n'est pas encore finie, je suis pas encore diplômé, du coup, faut prolonger. Et en fait, là, je me retrouve dans une situation j'ai trouvé assez ahurissant parce que il y a. D'un côté, mon directeur de thèse qui m'a dit, qui me propose, selon lui, il peut pas m'embaucher à 100% parce qu'il a pas assez d'argent. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, tout ce qu'il me propose, c'est 80% de mon salaire, donc c'est-à-dire un travail à mi-temps. Et donc, moi, étudiant en fin de thèse, j'ai pas beaucoup le choix de dire non, je veux pas, enfin, parce que du coup, j'ai quand même envie d'être diplômé. Et en plus, donc, lui, ce qu'il m'a dit, c'est bon, tu travailleras à 4 jours sur 5, etc. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que dernièrement, du coup, il arrive et il me dit, eh ben, après, on te paye 4 jours sur 5 parce que bon, on n'a pas plus de sous, mais après, c'est ta thèse, tu sais ce que tu fais si tu veux travailler que 4 jours sur 5. Et bon, c'est ta thèse, si tu finis pas, bon, c'est pour toi. Donc, j'y sens une espèce des mépris, enfin, je trouve ça c'est assez incroyable qu'il propose. Sachant qu'en fin de thèse, c'est souvent qu'on est doctorant, on travaille beaucoup plus, du coup. D'un côté, il me baisse mon salaire, il me baisse mon temps de travail, mais il attend beaucoup plus de moi, il attend que je travaille beaucoup plus. Donc, c'est assez... Enfin, je trouve... et donc, tout ça, ajouté à que l'école doctorale, donc, tant que je n'ai pas de contrat, j'ai pas le droit de m'inscrire à l'école doctorale. Et puis, la préfecture, elle me dit, bah, tant que tu n'es pas inscrit à l'école doctorale, on ne peut pas te donner tes séjours. Donc, je suis un peu, comment on dit, les culs entre les chaises, parce que je ne peux pas dire non à ce type de financement, parce que c'est quand même que j'y mange. Et d'un autre côté, ça ne me permet pas de garder mon statut. Et donc, en fait, il y a tout le monde qui me demande des informations, et en fait, il n'y a personne qui lâche un petit peu de son côté pour me faciliter cette démarche. Et je trouve ça assez... Voilà.
Oui, c'est sérieux. Merci pour ton témoignage. Effectivement, c'est une situation ubuesque où tu te retrouves pris entre le marteau et l'enclume, à la fois ton université qui ne te soutient que très très peu finalement, et la préfecture de police qui ne veut rien entendre, qui du coup met en danger la poursuite et la fin et l'achèvement de ta thèse pour le coup.
Oui. Oui, effectivement, parce que, comme tu disais, en fait, les moments, ce qui m'inquiète moi personnellement le plus, c'est que des moments où la préfecture, elle ne voudra plus, parce que pour l'instant, je suis avec une attestation de temps que j'aurais trouvé un contrat, d'après ce que m'a dit la préfecture. Mais si je ne trouve pas quelque chose de plus long, en fait, la préfecture, elle ne voudra pas continuer à me donner des papiers. En fait, les jours que la préfecture, elle voudra annuler mes papiers, bah, en fait, je suis un peu dans la merde parce que c'est... Enfin, dès que mon titre de séjour sera coupé, il va falloir faire toutes les démarches comme si j'étais déjà venu en France. Ce qui est beaucoup plus compliqué que si j'ai déjà des papiers et j'ai l'impression que du côté de l'université et même mon encadrant inclus, il ne se pose même pas la question de si c'est compliqué pour moi, si c'est parce que du coup derrière, c'est pour la fin de ma thèse, bah, du coup j'ai un salaire qui est encore plus bas que mon salaire des tisseurs qui était des bases pas très très hautes. Et donc ça implique que donc mon chômage il va être aussi revu à la base, et en plus si je trouve pas des autres financements, je vais devoir continuer au chômage et donc manger une partie de mon chômage avec la thèse.
Je me retrouve personnellement dans une situation un peu similaire avec des difficultés avec les conventions d'accueil, les universités qui soit ne savent pas forcément comment se débrouiller par rapport à ça, soit qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort. Et ça n'aide pas particulièrement que ton directeur de thèse ne soit pas plus compréhensif. Donc, en fin de compte, ces éléments-là, ils ont particulièrement affecté tes relations avec tes collègues. Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que tu as eu des soutiens au sein de ton département, par exemple?
Alors ça, c'est encore... Je pense que j'ai choisi vraiment... pas la meilleure thèse de l'histoire, parce qu'en fait, au sein du laboratoire, il y a des tensions politiques entre les différents chercheurs. Du coup, on est assez séparés entre les différents groupes de recherche. Et en plus de cela, avec les confinements, donc il y a beaucoup des chercheurs qui font du télétravail. Du coup, on les voit presque plus. Et donc, effectivement, il y a cette distanciation qu'on a pris et du coup qui est difficile à se remettre parce que à fin de compte c'est des collègues mais on n'avait jamais eu c'est compliqué de discuter de ça avec des autres personnes et donc la seule personne au sein du laboratoire avec laquelle j'ai pu parler c'est avec mon directeur de thèse et je trouve que l'effet du confinement ça l'a beaucoup je ne sais pas si tu dirais stressé, mais en tout cas, ça l'a beaucoup... ça l'a mal mis économiquement, je pense. Et donc, j'ai l'impression qu'il a juste envie de se débarrasser de moi, tandis que moi, j'ai juste envie de finir la thèse et de passer à autre chose. Donc, c'est assez enclenchonnant comme situation.
Oui, déjà, elle a une difficulté que tous les doctorants et toutes les doctorantes connaissent, qui est celle d'être un peu bloquée par le confinement, par le Covid... ne pas voir son terrain avancer, tu as ces sources de stress supplémentaires qui sont emmêlés et qui ne se résoudront pas d'elles-mêmes, en fait. Malgré des efforts, malgré toute ta volonté, ça n'est pas de ton ressort, quoi.
Oui.
Merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que ça doit parler énormément aux personnes qui nous écoutent, en tout cas celles et ceux qui sont doctorants et doctorantes. Alors, on va maintenant passer au témoignage de Mazie, qui va nous parler un petit peu de sa situation et nous parler plus abondamment de ce que c'est d'être un étudiant étranger, un étudiant africain en France. Mazie, c'est à toi quand tu es prêt.
Merci. Est-ce que déjà, je vais essayer de voir un peu avec les sons, mais est-ce que vous m'entendez déjà super bien?
Oui, moi je t'entends.
D'accord. Alors, durant les quelques minutes suivantes, je vais tenter en fait d'inscrire mon intervention dans la seconde partie de la proposition qui m'a été faite, c'est-à-dire prendre la liberté d'énoncer des éléments de réflexion et non un témoignage de mon vécu au sens propre. Je considère d'ailleurs pour ma part que l'espace public et l'ordre social contemporain regorgent déjà suffisamment d'une somme considérable de témoignages, le quotidien est en quelque sorte le lieu d'une accumulation de témoignages de souffrances. Toutefois, les témoignages des étudiants étrangers et étrangères sont certes sous-représentés et invisibilisés. Alors, j'aimerais vous présenter trois éléments important, selon moi, pour comprendre l'obstacle à une politisation de l'invivable, de la condition d'étudiants étrangers, ensemble des non-nationaux. Cette réflexion, en quelque sorte, s'inscrit dans une interrogation ancienne formulée par Valentin Moudimbe dans son ouvrage « L'autre face du royaume », à savoir comment, grâce à l'exercice de leur regard et en fonction de la singularité de leur expérience concrète dans leur société, mais aussi, les Africains pourraient-ils œuvrer à réconcilier pratiques de la connaissance et pratiques révolutionnaires? Pour ma part, ce sera un peu déplacé parce que je ne vis plus dans ma société, je vis en France. Donc, toutefois, quand même, n'ayons pas... Moi, j'emprunte aussi cette formule à Nadia Yalla Kizoukidi, qui est une philosophe spécialiste de Bergson. Alors, je vais commencer premièrement par la condition d'étranger. Cette condition est premièrement une situation sociale qui se dissimule à elle-même, sa propre vérité. Je reprends d'ailleurs cette expression au sociologue Abdelmalek Sayed dans son ouvrage « L'immigration ou les paradoxes de l'altérité », c'est-à-dire la réalité matérielle de l'étudiant étranger, elle est insoutenable. Mais cette insoutenabilité, elle est fruit d'une politique de l'État français à l'égard des non-nationaux. Non-nationaux, car il faut replacer l'analyse de la condition des étudiants étrangers et étrangères dans la catégorie juridico-politique du couple nationaux-non-nationaux, et donc du couple citoyen-étranger. C'est uniquement dans son rapport à la question du citoyen que l'analyse de la condition d'étranger trouve pleinement sa pertinence et son potentiel explicatif. Qualifier déjà les mécanismes d'oppression liés au fait d'être étranger comme étant politiques consiste à rompre les mécanismes de dissimulation de cette vérité. Par exemple, la dématérialisation et la coupe des budgets des préfectures produisent des phases d'irrégularité chez les étudiants étrangers. Étrangères. Manque des ressources humaines, mais pas que. Les pouvoirs discrétionnaires du reste de l'effectif des fonctionnaires conduisent aussi à la production des périodes d'irrégularité temporaires ou longues, comme c'est le cas des étudiants sans papier, étrangers aussi. Ne pas trouver un stage, par exemple, parce que noir et étranger, des boulots étudiants, d'être soigné correctement, affirmer qu'on est victime de racisme, par exemple, est parfois compliqué. Beaucoup de personnes de mon entourage passent leur temps à éviter l'acte de qualifier, souvent par méconnaissance, mais aussi par négation. Des bonnes fois, ils plongent même dans des grandes contorsions linguistiques épuisante à écouter. L'acte de qualifier devient complexe. La production d'une politique depuis notre condition, décision étrangère aussi, d'un positionnement politique. La politisation de la réalité matérielle, quotidien, invivable, trouve aussi son sens dans l'autocensure et la mise en extériorité politique de soi, qui succède son exclusion politique. Je veux dire par là l'effet même d'être dans une condition provisoire, un provisoire indéterminé qui vous conduit à penser dans un mode de suspension du réel et de sa temporalité. Un ami engagé comme moi et fondateur d'une association éducative m'a sorti une fois la phrase suivante. Je ne critique pas la France parce qu'elle n'est pas mon pays et je vais rentrer dans mon pays dans tous les cas. La deuxième partie de cette phrase illustre bien la rupture qu'on opère à partir du provisoire de notre condition pour montrer à distance les caractères foncièrement politiques de notre situation. Alors que la présence même d'un étudiant étranger est déjà perçue comme illégitime, futur migrant, comme Emmanuel Macron le disait, c'est-à-dire les visas étudiants étant une filière de l'immigration, est l'objet des soupçons permanents. Le provisoire de cette condition est l'objet même d'un rappel quotidien. La première question à laquelle un étudiant étranger est confronté, pour mon cas, c'est constamment, tu ne rentrais pas, quand est-ce que tu vas rentrer dans ton pays? Tu ne rentrais pas les vacances pour voir tes parents? Mais ce rappel au retour vient aussi de la famille, des amis restés au pays. Mes parents suivent l'actualité française, surtout maintenant, parce que le contexte accentue leur peur et l'angoisse, et leur angoisse. Comme on dit aujourd'hui, j'essaie de gérer ma santé mentale au quotidien, mais aussi les inquiétudes de mes parents. À la différence de mes parents, les inquiétudes des premiers protagonistes sont des fragments de discours, des euphémismes, des positions xénophobes, des racistes, assumés ou pas. Enfin, et dernier élément qui est un obstacle à la politisation de la réalité matérielle invivable des étudiants étrangers et étrangères, et c'est ce qu'Abdelmalek Sayed a appelé la politique de politesse. Tout étranger a durant son séjour été confronté au moins une fois à l'injonction de ne pas se mêler des affaires politiques du pays d'accueil. Du fait de notre condition d'étranger, émettre même le débit d'une parole critique est par ailleurs considéré comme une impolitesse. Et même la politique de politesse stricture notre rapport au quotidien. Je vais aller plus loin. Par son altérité, son extériorité de départ, il ne s'agit plus d'être un autre qui n'est pas soi, mais un autre qui n'est pas soi et qui ne devrait pas remettre en cause l'oppression qu'il subit en tant qu'autre qui n'est pas soi. En somme, en tant qu'étranger. Elle conditionne aussi nos interactions dans tous les espaces et avec les objets et individus qui nous entourent. Certaines activités nous semblent plus légitimes, par exemple s'engager dans une association culturelle, associative, afin de nous constituer en collectif pour valoriser la culture de notre pays d'origine ou organiser la solidarité entre compatriotes. Tandis que les engagements politiques semblent ne pas être de notre ressort, sauf quand c'est exclusivement en lien avec notre scolarité. Comme c'était le cas de la loi Bienvenue en France, même dans ces cas de figure, notre participation est faible. D'ailleurs, la politique des politesses est la ligne qui partage l'action politique légitime et illégitime d'un étudiant étranger. Ou du moins, c'est ce que certains profondeurs défenseurs du bon sens aimeraient nous faire comprendre. Mais parfois, le bon sens n'a ni de bon ni de sens. Une partie d'ailleurs de ces profondeurs du bon sens est constituée par des étudiants étrangers eux-mêmes. Car la politique des politesses s'inscrit dans un long processus de socialisation. Depuis l'enfance, pour mon cas, parler même du politique était tabou. Tous mes compatriotes, d'ailleurs, me rappellent tous les jours ma pseudo-hypocrisie. Je cite, « Tu ne critiques pas ta famille qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, mais tu critiques la politique française. » Cette injonction primaire conditionne même la condition d'étranger. Pourtant, on ne me demande pas si je suis contre la politique menée par ma famille. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Car même ma famille a été une institution d'oppression dans ma trajectoire. On me demande surtout de produire une parole politique exclusivement tournée vers mon pays d'origine. Mais du point de vue qui est le mien, le point de vue afro-décolonial qui est le mien, une critique de l'un ne va pas sans une critique de l'autre. Certes, il m'est difficile pour ma part, dans certaines conditions, quand même de critiquer mon pays publiquement, mais pour l'instant, je travaille à produire cette critique en public. Enfin, je vous remercie d'ailleurs pour votre écoute et voilà ma contribution à la discussion. Merci.
Merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Il y a pas mal de points, justement, qui personnellement, en tout cas, me parlent, notamment les points autour de la question du soupçon. Quand est-ce que tu vas rentrer dans ton pays? C'est une question assez fascinante parce que la plupart des personnes qui produisent un peu ce discours, je ne sais pas ce que nos autres invités en pensent, les émetteurs de ce discours, en fait, ça va être parfois des enseignants, parfois des proches en France qui ne sont pas forcément issus du même pays et qui vont justement renvoyer ce mantra en disant « tu es brillant, brillante, intelligente, pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays pour aider le pays ?» Et le fait que cette question soit mal placée ou peut-être tout simplement pas pertinente ne leur traverse pas forcément l'esprit. D'autres éléments intéressants dans ton approche, c'était aussi la question de la peur des proches restés au pays. Et je pense que c'est encore plus le cas avec le Covid. Et le rapport justement au pays d'origine. Tu disais qu'on nous demande de ne pas critiquer forcément le pays d'accueil, de ne pas être politisé ici. Par contre, dès qu'il s'agit de demander des critiques sur le pays d'origine ou d'être un petit peu l'amusement de la soirée parce qu'on vient d'un pays lointain, il y a du monde pour en parler. Je ne sais pas si ces points-là, par exemple, parlent un peu à Coyote et à Vaniala, si vous souhaitez prendre la parole à ce sujet.
Alors, oui, j'aimerais bien rebondir sur la question des rapports au pays. Effectivement, moi, je me souviens, quand je suis arrivé en France au tout début de mes études, c'était dans les années 2011, je pense. Et en fait, mes parents, ils étaient super soulagés du fait que je sois en France parce que c'était en plein essor de la guerre contre le narcotrafic au Mexique. Et donc, pour moi, c'était... Et c'est l'est toujours. C'était cette sensation d'avoir abandonné mon pays au début de mes études. Et je pense que c'est quelque chose qui va... Enfin, je ne sais pas où je finirai mes jours ou qu'est-ce que je vais faire de ma vie au futur. Mais en tout cas, c'est assez étrange, ce rapport qu'on a envers notre pays parce qu'on... On n'arrête pas, enfin, on a vécu quand même pas mal d'années dans nos pays d'origine, mais enfin, moi, toute ma vie d'adulte, je l'ai vécu en France, du coup, c'est des rapports assez, assez bizarres. Et justement, l'autre fois, j'ai parlé avec des copains, que c'était une conversation assez bienveillante, heureusement. Mais on parlait justement du rapport à. Et en fait, il me disait, mais en fait, t'es presque français et j'ai dit non, c'est assez bizarre parce que d'un côté j'ai pas l'impression d'être français parce que je suis toujours pointé du doigt dans n'importe quel à cause de mon accent, à cause de mon couleur de peau, enfin des plein de choses, et du coup je sais que je serai jamais considéré tel quel et je veux pas l'être. Et d'un autre côté, quand je retourne au Mexique, c'est aussi cette pointée du doigt de t'es parti, tu sais plus ce que c'est habiter au Mexique. C'est un rapport assez, assez particulier avec la France et avec le Mexique pour les coups.
Tout à fait, oui, c'est très juste comme propos parce qu'il y a cette idée de dissonance un peu cognitive qui s'installe. Est-ce que Vaniala, tu avais des choses à ajouter à ce sujet, au sujet de l'intervention de Mazi?
Voilà. Alors, moi, je pense que vous avez vraiment tout dit. En tout cas, je ressens exactement tout ce que vous avez dit. C'est des choses que moi-même, j'ai vécues. Bon, après, je suis à ma première année. Je pense pas que je me sens déjà un peu... je sens un peu cette, comme vous dites, dissonance. Mais oui, tout ça, c'est très, très juste. Et en tout cas, j'ai trouvé ça très, très pertinent de parler de comment on appelle ça de l'exclusion un peu politique en France. C'est pertinent.
Merci beaucoup, Vaniala. Est-ce que Mazi, tu vas rajouter quelque chose avant que l'on conclue l'émission?
Plutôt que pour l'instant, il y a vraiment une lutte qui est en cours, celle des sans-papiers, des personnes étrangères aussi, parce que je reste toujours dans ma catégorie d'analyse qui est non-nationaux et nationaux. Et celle des sans-papiers aussi s'inscrit dans la lutte des non-nationaux. Et je dirais que les 18 prochains, il y aura partout en France des manifestations. Et je vous invite à participer, à soutenir même financièrement, à aller sur le blog Mediapart de la marche des solidarités ou participer comme vous pouvez. Voilà.
Merci beaucoup, ça va être très juste pour conclure cette émission, ce message, cet appel à la solidarité, à la lutte. Donc, face à toutes ces difficultés, à tous ces enjeux qu'on a évoqués ce soir, s'il y a un dernier mot de la fin de la part de nos invités, déjà, je voudrais vous remercier d'être venus à cette émission. Remerciements aussi vont à Mal à la technique et à tous les pirates, tous et toutes les pirates qui m'ont aidé pour la préparation de cette émission. Est-ce que nos invités voudraient finir avec un petit mot pour conclure l'émission?
Alors, je voudrais juste remercier aussi l'invitation. Et c'est sympa qu'il y ait des choses comme Radio Pirate qui s'intéressent à des sujets très divers, parce qu'effectivement les étudiants étrangers, c'est quelque chose que quand on est à l'université on les voit tout le temps, mais j'ai l'impression qu'on a, enfin, du côté de la population française, elle est souvent déconnectée de la réalité des étudiants étrangers. Donc c'est très, très sympa de votre part d'avoir fait cette émission et merci pour de nous avoir accueillis.
Koyat, Mazi et Vaniala pour avoir accepté cette invitation. Merci de
nous avoir écouté ce soir.
Oui.
Merci pour l'invitation. Et c'était un plaisir de participer à cette émission.
Merci. C'était vraiment très enrichissant et toutes les interventions étaient vraiment riches, très très justes. J'adore. Merci.
Merci beaucoup. Merci de.
J'ai adoré aussi cette émission et on remercie donc pour votre participation à cette émission. On remercie les pirates qui nous écoutent, les pirates qui nous aident. On remercie la technique et on vous laisse donc sur ces petits mots de solidarité et d'appel à la lutte. Merci de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée. Et c'est la musique de fin du coup. Au revoir.
Atrás sin saber qué hacer y en qué lugar estoy viviendo, evitando la vergüenza, atrapado en un velo, en una cárcel donde todo parece un sueño. Ya prendiendo a sonreír, unos te ayudan y otros se alejan de ti, porque llorar es tan difícil, porque llorar es tan difícil. We'll be right back. Bye.